Il est exactement 9h à Lusambo, dans la province du Sankuru, et 8h à Lusanga, dans le Kwilu. C'est l'heure de nous informer.
Radio Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, voici les titres de ce journal. Face à l'afflux massif de réfugiés congolais au Burundi, provoqué par l'aggravation de l'insécurité dans l'est de la RDC, qui inquiète les acteurs humanitaires, la ministre d'État Eve Bazaïba s'est rendue ce vendredi à Bujumbura pour évaluer l'urgence humanitaire et renforcer la coordination de l'assistance. Plus de 400 enfants orphelins en âge scolaire ne vont pas à l'école dans une agglomération lacustre au sud-est de la ville de Beni. La plateforme universelle des orphelinats de Butembo qui alerte sur cette situation demande aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Ancienne ministre provinciale de l'économie et des finances du Sankuru, Mado Ndoa croit au développement de sa province. Invitée des Radio Kapi, elle estime que l'unité, la paix et la cohésion entre les acteurs politiques et sociaux du Sankuru suffisent pour sortir cette province des sentiers battus. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonne journée dominicale à tous. Plus de 250 000 réfugiés congolais vivent actuellement au Burundi. Un afflux massif provoqué par l'aggravation de l'insécurité dans l'est de la RDC qui inquiète les acteurs humanitaires. Face à cette situation, la ministre d'État, ministre congolaise en charge des affaires sociales et humanitaires, Eve Bazaïba, s'est rendue ce vendredi à Bujumbura, capitale du Burundi, pour évaluer l'urgence humanitaire et renforcer la coordination de l'assistance. Les détails avec Grâce Amzati Masanzi.
Selon les données humanitaires, plus de 101 000 déplacés congolais ont franchi la frontière burundaise après la chute de la ville d'Uvira, portant à plus de 250 000 le nombre total des réfugiés congolais au Burundi. Originaires principalement du Nord Kivu et du Sud Kivu, ces déplacés vivent dans des conditions précaires sur plusieurs sites d'accueil. Parmi eux, près de 30 000 enfants sont privés de scolarité, ce qui accentue la vulnérabilité des familles. À Bujumbura, la ministre des Affaires sociales s'est entretenue avec les autorités burundaises et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de renforcer la coordination de la prise en charge. Les besoins restent importants. Alimentation, eau potable, soins de santé et abris d'urgence. Le ACR signale une situation sanitaire préoccupante avec 53 décès recensés dont 25 liés au choléra et estime à plus de 33 millions de dollars américains les ressources nécessaires pour faire face à l'urgence. De son côté, la ministre Eve Bazaïba rassure sur l'engagement du gouvernement congolais, insistant sur l'enregistrement systématique des réfugiés afin de prévenir les infiltrations.
Dans le chapitre de l'éducation, sachez qu'au moins 420 enfants orphelins en âge scolaire ne vont pas à l'école dans l'agglomération lacustre de Kavinyonge, située à 100 km au sud-est de la ville de Beni au Nord Kivu. Selon la plateforme universelle des orphelinats de Butembo, qui alerte sur cette situation, il s'agit des enfants qui ont perdu leurs parents dans différents naufrages sur le lac Édouard, mais aussi dans la guerre en territoire de Rutshuru. Cette plateforme de défense des droits des enfants orphelins demandent aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Deogracias Muindo de la plateforme universelle des orphelinats de Butembo explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous avons trouvé un chiffre de 420 enfants en âge scolaire enregistrés auprès de nos amis encadreurs qui sont déjà installés à Kavinyonge. C'est un nombre vraiment trop élevé. Les causes qui ont été déclarées par les autochtones humiliés, ce n'est que les naufrages et d'autres qui ont été capturés et tués au niveau des frontières avec le pays voisin, l'Ouganda, dans le lac. Alors cela fait vraiment un chiffre élevé des enfants orphelins dans l'agglomération de Kavinyonge. Les écoles publiques n'ont pas la capacité d'accueillir ce nombre d'enfants. Ils n'ont pas de fournitures scolaires, ils ne trouvent même pas des uniformes à cela. Alors nous appelons à tout un chacun de nous venir en aide pour nous aider à subvenir à certaines difficultés que courent nos enfants orphelins dans l'agglomération de Kavinyonge.
Province du Haut-Katanga, grève des enseignants vacataires de l'Institut Mahadini à Lubumbashi et Uchawi à Likasi, deux grandes écoles de la société Jekamine. Ils sont en grève depuis quelques semaines. Ils revendiquent leur salaire de novembre. Signalons que ces enseignants sont employés par des entreprises de sous-traitance qui ont signé un partenariat avec la Jekamine. C'est le cas de Kwetu Business qui emploie les enseignants vacataires de l'Institut Mahadini. C'est un reportage de Paul Munanga rendu par Jules Mystère Bilanda.
À l'Institut Mahadini de Lubumbashi, et c'est depuis décembre dernier que les enseignants sont en grève. Les élèves n'étudient pas convenablement. Il faut préciser que dans plusieurs écoles de la Jekamine, la majorité des enseignants sont des vacataires et sont employés par des entreprises de sous-traitance qui travaillent avec la Jekamine. À Mahadini, d'après des sources proches de cette école, il n'y a que 6 enseignants qui sont engagés par la Jekamine et une quarantaine d'enseignants sont des vacataires. Une fois que ces derniers sont en grève, les activités scolaires sont paralysées. Certains parents d'élèves dénoncent cette situation. Ils précisent que les élèves dont les parents ne sont pas agents de la Jekamine payent à chaque fin du mois les frais scolaires de leurs enfants. La Jekamine reconnaît un retard de paiement des salaires de novembre et rassure que les enseignants seront payés incessamment. Pour sa part, l'entreprise Kwetu Business, qui emploie les enseignants vacataires de l'Institut Mahadini, n'a pas encore réagi à ce sujet. Notons que depuis plusieurs années, les enseignants vacataires des écoles de la Jekamine observent souvent des mouvements de grève pour revendiquer leur salaire.
Pendant ce temps, plus de 1000 élèves n'étudient plus depuis le 8 janvier dernier dans la cité de Kimpese au Congo central et près de 200 familles se sont retrouvées sans abri. Une douzaine d'écoles et près de 200 maisons d'habitation ont été détruites par une pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur Kimpese dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 janvier. Le sous-préfet de Songololo 1, Emmanuel Mbiavangambunga, qui livre cette information à Radio Kapi, s'est dit fortement touché et appelle les autorités à remédier urgentement à cette situation qui empêche la bonne reprise de cours après les congés de Noël et de Nouvel An. Nana Purush Mambu, reportage.
Les établissements scolaires touchés par cette pluie torrentielle sont notamment les instituts Vuzilandu et André Wameso, ainsi que des écoles primaires Vuzilandu et Zizila. Si dans certaines les toitures ont été complètement emportées, exposant et endommageant des documents administratifs, dans d'autres ce sont des bâtiments qui se sont écroulés. Le sous-préfet de Songololo 1 n'a fait que constater les dégâts. Il est désemparé. Emmanuel Mbiavanga.
J'ai des larmes aux yeux. Quand l'enfant ne va pas à l'école, moi je suis mal à l'aise. Il y a plus de 1000 élèves qui n'étudient pas à cause de ces dégâts. Je demande aux autorités de nous venir en aide.
En dehors des écoles, cette pluie accompagnée d'un vent violent a aussi laissé 200 familles sans abri, leurs maisons étant dévastées. Sylvain Matutanga, coordonnateur de la société civile de Songololo, affirme que ces sinistrés n'ont jusqu'à présent reçu aucune assistance des autorités.
Nous nageons déjà vers 200 maisons qui ont été détruites. Des sinistrés sont abandonnés à leur triste sort. L'SOS est lancé auprès des autorités pour qu'ils puissent au moins chercher des solutions appropriées pour cette réalité.
Le secteur de la santé n'a pas été épargné. Un bâtiment du centre de santé Saint-Thaddée s'est effondré sous cette même pluie, compliquant ainsi l'accueil des malades. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu où plus de 500 élèves des écoles primaires Kilewe et Mbene dans la ville de Beni sont sans abri depuis vendredi soir. C'est à la suite d'une pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui s'est abattue sur la ville. La protection civile plaide pour la réhabilitation urgente de ces bâtiments scolaires pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Au moins 8 salles de classe, un bureau et 10 toilettes des écoles primaires Kilewe et Mbene dans la ville de Beni ont perdu leurs toitures emportées par les vents violents qui a soufflé sur la ville de Beni vendredi soir. Tous les documents administratifs ont été endommagés par ces intempéries. La protection civile parle d'une situation catastrophique et appelle à la réhabilitation urgente de ces bâtiments pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Jean-Paul Capitula est le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni.
C'est une urgence. Nous demandons tous les humanitaires, le gouvernement, que nous puissions venir auprès de ces enfants, les aider, étudier sous le soleil ardent. Et s'il pleuvait encore une fois, je ne sais pas quel sera le sort de ces enfants. 10 lunettes des toilettes, les latrines, ont été aussi emportées par le vent. Donc ces enfants, on ne sait pas, ils vont faire les liens d'aisance où. Parce qu'à ce moment ici, il n'y a plus de liens d'hygiène. C'est un danger pour développer des épidémies pour ces enfants. Il faut que tous ceux qui ont la bonne volonté puissent mettre la main sur la pâte pour que les deux écoles puissent avoir une assistance urgente, surtout la réhabilitation urgente de ces 8 salles de classe qui ont été touchées. Si nous voulons investir dans ces enfants, c'est urgent que nous puissions venir les secourir pendant ce moment ici où ils sont touchés par une catastrophe.
Dans la commune de Moulekera, des murs des maisons se sont écroulés, causant également d'importants dégâts matériels. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, pour clore ce chapitre de l'éducation, cette école de la sous-division Moba 1 dans les territoires de Moba sont touchées par des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika et les débordements de la rivière Mulobozi. Cette situation dure depuis le début de cette semaine. Parmi les écoles touchées, il y a l'EP1 Mouila, l'Institut 2 Lunketa et l'Institut Nganyé. Conséquence, des centaines d'élèves n'étudient pas normalement. Le secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Moba, demande aux autorités de s'impliquer pour une solution. Contacté, le sous-proviseur de l'enseignement Moba 1 confirme l'information. Isidore Kabebe indique qu'une solution palliative est déjà trouvée. Certaines écoles victimes des inondations sont délocalisées et vont fonctionner dans d'autres bâtiments en attendant une solution durable. Province du Haut-Katanga, la maire de Lubumbashi prend des mesures interdisant l'accès au centre-ville des conducteurs de motos et de tricycles œuvrant dans les transports en commun ou des privés. Objectif, garantir la sécurité et la fluidité de la circulation au centre-ville de Lubumbashi. La maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, a sillonné ce jeudi plusieurs artères de la ville pour sensibiliser ses usagers de la route au respect strict des limites fixées par la mairie. Le point avec Pauline Munanga.
La mairie de Lubumbashi fixe les limites que les conducteurs de motos et tricycles ne peuvent pas franchir. Au nord de la ville, il y a l'avenue Kambov, au sud, l'avenue Likasi et Sendwe, à l'est de la ville, l'arrêt Grand Bus Tunnel vers la chaussée Félix Tshisekedi, et à l'ouest, l'avenue Kamanyola, chaussée Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Adoula. La maire à l'intérim de Lubumbashi demande aux motocyclistes de respecter les limites fixées pour exercer leurs activités. Joyce Tunda Chansa les sensibilise d'assainir leur lieu de travail. Comme je vous ai dit, vous êtes des responsables. Vous avez été sensibilisés à 2 ou 3 reprises. Vous respectez les limites fixées sans que la police ne vous y contraigne. Si vous voyez un motard qui prend cette direction qui est interdite, vous l'appréhendez et vous l'amenez à la mairie. Surveillez-vous vous-même. Et puis, à cet endroit où vous travaillez, vous allez faire des travaux d'assainissement chaque jour. Constituez des équipes et cherchez des brosses pour rendre cet endroit salubre. Signalons que ce n'est pas pour la première fois que la mairie de Lubumbashi interdit aux conducteurs des motos et des tricycles d'accéder au centre-ville. Mais à chaque fois, il passe outre cette mesure. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent de subir le poids de certaines coutumes, souvent au détriment de leurs droits fondamentaux. Pour décourager ces pratiques, la section genre de la MONUSCO a lancé depuis jeudi une campagne de sensibilisation à la masculinité positive dans le territoire de Mahagi, situé à environ 165 km au nord de Bunia. L'objectif, favoriser la transformation des normes sociales négatives qui dévalorisent les femmes et freinent leur participation active à la prise des décisions. Isaac Remoyope, reportage.
Selon les constats dressés par plusieurs organisations de défense des droits humains, certaines coutumes continuent de reléguer les femmes aux seuls travaux ménagers, une situation qui empêche de nombreuses femmes d'exprimer pleinement leurs compétences et de participer aux instances de prise de décision au sein de la communauté. Pour la section du genre de la MONUSCO, cette campagne vise à transformer ces normes négatives afin de promouvoir une société plus équilibrée, fondée sur l'égalité entre l'homme et la femme.
Les coutumes rétrogrades ont beaucoup plus laissé la place de la femme à la cuisine. Comment on saura qu'elle a aussi des idées qui peuvent construire la société? Elle a aussi un apport vraiment significatif à apporter pour le développement même de la société.
De leur côté, certains participants ont reconnu avoir déjà bafoué les droits des femmes et des jeunes filles dans leur vie. Ils se sont engagés à promouvoir ces droits au sein de leur foyer et à sensibiliser d'autres couches de la population. L'un d'eux,
Nous tous qui avions participé à cet atelier, de commencer chacun d'abord chez soi, puis le faire ailleurs. Donc je suis engagé à sensibiliser tout et chacun à la masculinité positive.
L'administrateur du territoire de Mahagui a pour sa part encouragé les administrés à adopter un comportement responsable, gage d'une véritable égalité entre l'homme et la femme. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, de nombreuses réactions depuis le 8 janvier après l'évocation d'une éventuelle réintroduction de la peine de mort. Le débat a été rouvert par les autorités dans un contexte de forte émotion de la population suite à plusieurs cas médiatisés de crimes rituels et de sang. Lors de ses vœux à l'administration, le président Oligui Nguema n'a pas écarté la possibilité d'un retour de la peine capitale abolie en 2010. La dernière exécution avait eu lieu en 1985. Il a renvoyé les sujets à une consultation populaire. Journée d'élection au Bénin. Le bureau de vote ouvre à 7h et ferme à 17h, heure locale. Double scrutin législatif et communal pour choisir les 109 députés de l'Assemblée nationale et plus de 1800 conseillers communaux pour un mandat de 7 ans. Une durée rallongée après la révision constitutionnelle de novembre dernier. 5 partis, 3 de la mouvance présidentielle et 2 de l'opposition sont en lice pour les législatives. Seulement 3 pour les communales. 3 ans après les dernières législative, les Béninois retournent donc aux urnes ce 11 janvier 2026.
L'invité.
Ancienne ministre provinciale de l'économie et des finances du Sankourou, Mado Ndoa, croit au développement de sa province. Invitée de Radio Okapi, elle estime que l'unité, la paix et la cohésion entre les acteurs politiques et sociaux du Sankourou suffisent pour sortir cette province des sentiers battus. Mado Ndoa est également d'avis que, 10 ans après sa création, la province du Sankourou a besoin d'un leadership féminin pour un développement rapide. Elle répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, madame Mado Ndoa.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez été ministre provincial de l'économie et finances de la province du Sankourou entre 2015 et 2016. Quelle est la situation de cette province 8 mois après la déchéance du gouverneur Victor Kitenge?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. La situation du Sankourou maintenant après la déchéance du gouverneur Kitenge est vraiment alarmante, est vraiment catastrophique pour le moment après la déchéance du gouverneur Kitenge. Et nous voulons vraiment que les choses change.
Selon vous, qu'est-ce qui entrave le processus de développement de la province du Sankourou?
C'est ce qui bloque le développement de la province du Sankourou, c'est la mauvaise gestion du gouverneur, la mauvaise gestion de ce qui anime la province du Sankourou. Donc vous savez que le Sankourou, c'est une province qui est au centre de la République démocratique du Congo. Le Sankourou est enclavé. La population n'arrive pas à circuler avec leurs biens, même dans des commerces dont la situation du Sankourou est vraiment chaotique. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas moyen que la population puisse vivre comme des citoyens vraiment libres.
À un mois de l'élection du nouveau gouverneur de la province du Sankourou, quel est selon vous le profil d'un candidat idéal?
Après le démembrement, il y a de cela au moins 10 ans que le Sankourou existe comme province. Il y a eu à la tête de cette province 4 gouverneurs hommes qui ont démontré leurs limites. Parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous allez au Sankourou, vous n'avez rien, ni au niveau du gouvernorat, on manque même des installations sanitaires. Alors pour moi, la province a besoin d'une leader féminine. Donc il faut qu'il y ait une femme à la tête de cette province pour que les choses changent. Vous savez, la femme, lorsqu'elle est quelque part, elle est censée relever d'abord les défis que les femmes, parce qu'il y a des gens qui doutent de la gestion de la femme, et elle va relever, elle va travailler dur pour relever ce défi-là. Et nous avons l'exemple de la province de Lualaba, là où il y a une femme qui dirige. Je crois que dans les 26 provinces que nous avons, la province de Lualaba est la mieux gérée. C'est une femme qui est à la tête de cette province. Pour moi, je trouve que le Sankourou a besoin d'une femme pour essayer de faire développer cette province, les provinces qui a vu naître le Patrice Emery Lumumba, notre héros national, dont le Sankourou a besoin de la tête d'une femme pour bien gérer cette province.
Que répondez-vous à ceux qui reprochent au gouvernement central de maintenir le Sankourou dans l'état de désordre et du sous-développement?
Bon, je ne pense pas vraiment que c'est ça, parce que vous savez que le Sankourou, c'est une province qui a beaucoup de richesses, monsieur le journaliste. nous avons les minéraux, nous avons l'or, nous avons même le pétrole. Les Sankoura est terre arabe non exploitée. Donc je pense que c'est la mauvaise gestion des hommes qui ont démontré leurs limites. Ce n'est pas un problème du gouvernement central. Parce que lorsque vous êtes un leadership, vous devez avoir une vision du développement de cette province que vous gérez. Le problème, c'est le leadership dans la province du Sankourou. Parce que nous avons tout pour développer les Sankourou, avant de voir peut-être les investisseurs que nous pouvons peut-être solliciter. Mais la province du Sankourou a tellement de richesses pour se développer.
En tant qu'actrice politique, cadre de l'IDPS, quel est le message que vous pouvez lancer à la population du Sankourou en particulier et à tous les Congolais en général?
Je dirais d'abord à la population de la province du Sankourou d'être unie et d'espérer toujours, parce que cette province, c'est une province qui doit être une province touristique, dont nous avons besoin de l'unité. Nous devons cesser les querelles stériles qui ont plongé les Sankourou. Les Sankourou est devenu dernière province parmi les 26 provinces à cause de toutes ces querelles, de ces dignes fils. Je lance un message de la paix, un message de l'unité, parce que je sais que même si la longueur de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Et je lance aussi un appel, le même appel aux représentants de la province du Sankourou, nos députés provinciaux, lorsqu'il y aura les élections, que leur choix puisse amener les Sankourou dans les développements. Et j'aimerais lancer cet appel aussi pour nos frères qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, ceux qui ont pris les armes pour combattre leurs frères, de pouvoir arrêter. Ce pays ici a besoin des Congolais, de chacun de nous, pour que ce pays puisse se développer.
Madame Mado Ndoa, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
C'était notre invité Mado Ndoa qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à cette édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Jude Mister Bilanda Nkoumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.